France Culture.
Réplique, Victor Hugo politique, avec Robert Kopp et Philippe Reynaud. Évoquer la trajectoire qui a mené l'auteur des Misérables du monarchisme à la République avec Philippe Reynaud qui publie Victor Hugo, la révolution romantique de la liberté et avec Robert Kopp, spécialiste de la littérature française du 19e et du 20e siècle. Nous commencerons par la fin. Victor Hugo est mort à 83 ans le 22 mai 1883. Il avait, dans son testament, exprimé le désir d'être porté au cimetière dans le corbillard des pauvres. Ce vœu a été exaucé, mais il a eu droit aussi à des funérailles grandioses. J'aimerais que vous nous les racontiez, ces funérailles, Philippe Reynaud.
Oui, je crois qu'on peut dire que les funérailles de Victor Hugo, c'est sa dernière œuvre, et probablement une des plus réussies. Peggy dit quelque part que Victor Hugo est un grand organisateur de pompes funèbres et de funérailles nationales, y compris les siennes. Ce qui, je crois, est assez bien vu. Bon, dans le contraste le plus évident, c'est celui que vous avez indiqué, c'est que Victor Hugo, dans son testament, indique qu'il veut être porté par le corbillard des pauvres, mais il est clair qu'il savait qu'il aurait des funérailles nationales. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une duplicité de Victor Hugo de ce côté-là ? Je ne le pense pas, parce que dans l'univers spirituel de Hugo, dont nous parlerons par la suite, il n'y a pas de contradiction entre la célébration du grand homme et la célébration des humbles. C'est les deux composantes, finalement, de la geste de l'humanité. Il se trouve qu'elle se rencontre en sa personne, la personne du poète qui a guidé le peuple et la France toute sa vie, et ça me paraît naturel. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que Hugo a délibérément donné une signification religieuse à ce que devaient être ses funérailles, en faisant connaître qu'il mourrait en ayant la foi en Dieu, mais en refusant l'oraison de toutes les églises, c'est-à-dire qu'il a affirmé ce qui est sa position la plus constante et, je crois, la plus substantielle, c'est qu'il refuse à la fois l'héritage pour lui autoritaire de la religion catholique et le matérialisme, l'athéisme moderne. Si bien que l'enjeu des funérailles de Victor Hugo, c'est que la République va en faire des funérailles nationales, va inhumer finalement au Panthéon, qui est rouvert à la République
à cette occasion,
qui redevient le cimetière des grands hommes, les hommes qui ont fait la France, d'ailleurs ça date des funérailles de Victor Hugo, mais qui appelle à un consensus qui ne peut pas être absolument universel et qui est refusé assez violemment. D'abord, dans la droite catholique, où on a des textes notamment d'Eugène Veuillot, qui est le frère de Louis Veuillot, qui est le même genre d'animal que son frère. Tout ça est sacrilège, etc. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut voir les funérailles de Hugo.
Très bien. Donc en effet, ce sont faites en deux temps, l'Arc de Triomphe d'abord, et ensuite la panthéonisation. Vous l'avez dit, Philippe Reynaud, et un monde fou, je crois, Robert Kopp.
Entre 1 et 2 millions. Oui.
1 à 2 millions de personnes ont assisté à ces funérailles.
Robert un monde Kopp. Fou, en effet. On pourrait peut-être ajouter, Alain, que ces funérailles, c'est le dernier acte d'une vie qui, tout entière, a été dédiée à la mise en scène. on peut raconter la vie de Victor Hugo par une série de mises en scène, pour ne pas dire de postures, à commencer par « Je veux être Chateaubriand » ou rien, même si le mot est peut-être apocryphe, quand il avait 17 ans et qu'il fonde avec ses frères un journal à l'imitation du conservateur de Chateaubriand, qui s'appelle le Conservateur littéraire. Ensuite, la mise en scène du poète qui soutient la monarchie, l'invité officiel au sacre de Charles X, la mise en scène de la bataille d'Hernani, et puis la mise en scène de l'exil. La mise en scène de l'exil pendant 20 ans, puisque il veut rester en exil et il refuse de revenir.
Oui,
absolument. La mise en scène de son retour au moment de la proclamation de la République, où il arrive à la gare du Nord et il dit qu'une foule l'acclame. En réalité, c'était soldat qui revenait du front et qu'il fait, Philippe le dit, un discours improvisé, dit-il, mais enfin, tout ça était préparé, puisque le discours est publié par la suite. Et jusqu'au bout, il y a cette mise en scène, puisque il estimait que le poète avait un rôle à défendre, avait une stature particulière, était au milieu des hommes, mais un tout petit peu au-dessus quand même.
Oui, alors, mise en scène, il n'était pas là pour y assister, et ce qui est frappant, en effet, c'est la quasi-unanimité. Quasi, il y a les catholiques conservateurs, Eugène Villot, aussi, pour s'opposer à cette grandiose manifestation, Jules Guesde, au nom des socialistes, Jules Guesde dit des choses absolument terribles. À son char de triomphe funéraire, Victor Hugo, le prétendu socialiste, a attelé tous les représentants du monde gouvernemental et capitaliste, sauf l'Église, avantageusement remplacée par la déicolatrie franc-maçonne, a au bas de son passeport pour l'immortalité le visa de toutes les puissances anti-révolutionnaires. Ce Béranger solennel, ce chantre impénitent d'un dieu qui n'a jamais existé, d'une famille qui existe de moins en moins, d'une patrie qui ne saurait exister qu'en tuant l'humanité, appartient à l'ennemi, au vieil ordre des choses, que la mission historique du prolétariat est d'enterrer et que le nouveau 93 redouté d'Hugo jettera à l'égout. Alors nous verrons ce qu'il en est de 93, parce que nous parlerons du roman de Victor Hugo. Alors simplement, je voudrais citer en regard de ce commentaire assassin de Jules Guesde, Albert Wolff, qui dit, lui, dans le rappel, « Cette journée parisienne apparaîtra à la postérité comme une légende invraisemblable, si loin qu'on retourne dans le passé, elle n'a pas de précédent, et qui sait si jamais elle trouvera un pendant. On peut dire que le peuple français tout entier a conduit Victor Hugo à sa dernière demeure. La manifestation est d'une telle grandeur que notre fierté chasse la mélancolie et que le deuil prend les proportions d'une apothéose. 2 millions d'hommes résumant dans leur ensemble, par la pensée ou le travail, le génie d'une nation. » C'est très émouvant, mais surtout ça veut dire quand même que c'est le moment culminant de la France patrie littéraire. Tout un peuple se reconnaît dans un poète. Philippe Reynaud.
Il faudrait à Jules Guesde, qui n'est pas quelqu'un de très populaire, ajouter Paul Lafargue, qui a passé beaucoup de temps à dénigrer Victor Hugo, qui a écrit un petit livre assassin contre lui, et qui était dans le même camp des adversaires révolutionnaires, et plus particulièrement marxistes, de Victor Hugo.
Il est connu, Lafargue, pour son livre Le droit à la paresse.
Le droit à la paresse. Je pense qu'il... Sur le plan intellectuel, c'est un droit dont il a amplement usé et qu'il illustre notamment dans ce qu'il a écrit sur Hugo. Le petit livre est pas mal troussé, mais enfin bon. Est-ce que c'est la culmination de la patrie littéraire? Je ne sais pas. C'est surtout le point culminant de ce que Benissou a appelé le sacre de l'écrivain. C'est-à-dire, c'est le moment où ce programme, d'une certaine manière, qui se forme à la fin du XVIIIe siècle et dans les années qui suivent la Révolution, qui consiste à considérer que, puisque le pouvoir spirituel est vacant depuis la fin du catholicisme institutionnalisé, la place du pouvoir spirituel va être occupée peut-être par le poète qui va guider le peuple. Et je crois que c'est ça, disons, qui est surtout présent au moment des funérailles de Victor Hugo. Hugo est un écrivain très populaire, mais ce n'est pas nécessairement un écrivain très admiré de ses pairs.
Non, mais je parle pas très littéraire au sens où tout un peuple peut se reconnaître en un poète. Le journal du dimanche fait les listes des personnalités préférées des Français tous les ans. Il n'y a pas un seul écrivain.
Oui,
il y a quelques hommes politiques ou femmes politiques. Il n'y a pas un seul écrivain. Donc, il y a quelque chose à changer.
Absolument. Le grand écrivain n'est plus une figure populaire.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, oui.
Mais en effet, il n'était pas admiré de tous ses pairs, et ça, nous en parlerons à propos Misérables. Mais un mot, Robert Kopp.
Je crois que Philippe Reynaud a raison de distinguer entre l'admiration populaire et le manque d'estime que lui témoignent certains de ses pairs. Parmi les fausses notes des écrivains qui ont évoqué ses funérailles, il y a évidemment la description absolument cruelle qu'en fait Edmond de Goncourt. Il parle des funérailles foutatoires, puisque les filles travaillaient gratuitement ce jour-là dans les bosquets des Champs-Élysées. Et Edmond Goncourt, dans son journal, dit ceci « Cette kermesse me dégoûte. Je ne m'y suis pas mêlé. Il me semble que la population parisienne, sevrée de fêtes qu'elle aime par la République, a remplacé la promenade du bœuf gras par les funérailles de Victor Hugo. » C'est une des fausses notes. Il y en a d'autres. On n'ose pas imaginer ce que Baudelaire aurait dit, mais il est mort depuis près de 20 ans. Quant à Lafarge, j'ajouterai en guise de note en bas de page, il est marxiste et les marxistes ont une attitude assez ambiguë vis-à-vis de Victor Hugo. Ce ne sont pas, en général, des hugolâtres.
Ils sont aussi jusqu'au tournant patriotique du Front populaire, en fait.
Oui, c'est vrai. Mais alors, vous dérangez un peu le plan que je voulais suivre, mais ce que vous dites est très intéressant. Donc, nous parlerons tout à l'heure du romantisme inaugural de Victor Hugo. Mais là, puisque vous avez évoqué les réticences d'un certain nombre de ses pairs, je voudrais aller au-delà et peut-être un peu au-dessus des Goncourt, Baudelaire et Flaubert, à propos des Misérables. Flaubert, moi qui ai passé ma vie à l'adorer, il parle de Victor Hugo, je suis présentement indigné. Ce livre est fait pour la crapure catholico-socialiste, pour toute la vermine philosophico-évangélique. L'article de Baudelaire sur Victor Hugo n'est pas trop sévère, mais dans un texte sur Edgar Poe, il reproche à Hugo d'avoir introduit de force et brutalement dans la poésie ce qu'Edgar Poe considérait comme l'hérésie moderne capitale, l'enseignement. Et il est vrai que le premier titre des Misérables, c'était « Le progrès ». Et que Victor Hugo, dans son exergue, il dit « Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale, créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Voilà. C'est-à-dire les Misérables, la misère comme cause du mal. Et Baudelaire termine son texte sur les Misérables pour dire que on n'en finira pas comme ça avec le péché originel. Donc il y avait quelque chose, en effet, d'enseignant dans l'œuvre de Victor Hugo, quelque chose de rousseauiste. Le mal est avant tout social, et cela, un certain nombre d'écrivains ne l'ont pas vraiment admis.
En l'occurrence, les écrivains ne l'ont pas admis, mais ils sont injustes avec la position de Victor Hugo, qui est plus subtile que cela. On peut dire que Hugo s'inscrit dans la filiation rousseauiste, parce qu'en effet, il refuse le péché originel. C'est un christianisme sans péché originel, c'est-à-dire que ça n'est pas un christianisme, d'ailleurs, tout simplement, c'est un post-christianisme. Mais je ne pense pas qu'ils disent que le mal vient de la société, parce que chez Rousseau, ça veut dire que le problème, c'est la constitution de la société en elle-même. Hugo, au contraire, fait partie des défenseurs de l'idée d'une sociabilité naturelle. Ce que je dirais, c'est qu'il considère que il y a un mal social qui produit un certain nombre de faits, mais rien n'indique qu'il pense que tout le mal vient de la société ou que la réforme de la société va éliminer le mal. Dans les Misérables, puisque c'est le livre central sur ce point, il y a un chapitre qui décrit Thénardier et sa bande quand il a pris le nom de Jondrette, et qui s'appelle Le mauvais pauvre. Il y a des mauvais pauvres chez Victor Hugo. Ça, si vous voulez, c'est effectivement le procès qui lui a été fait par son ami Lamartine, par Baudelaire,
par Flaubert,
mais ça me paraît un procès un peu injuste. Un peu injuste, oui, exagéré, excessif.
Robert, je ne serais pas d'accord avec toi, Philippe, en utilisant le mot injuste. Parmi les adversaires...
Partial, je dirais.
Voilà, partial, d'accord. Parmi les adversaires des Misérables, notamment, je distinguerai deux groupes. Ceux qui, en principe, sont plutôt du côté de Victor Hugo, comme Lamartine ou Proudhon, mais qui estiment que ce livre est une mauvaise action parce qu'il suscite des espoirs illusoires. Lamartine dit très clairement, il faut que le peuple comprenne la force des choses et on ne peut pas éveiller des espoirs que l'on ne peut pas satisfaire. Et Proudhon dit à peu près la même chose. Mais les trois ont approximativement la même idée de l'homme. En revanche, Barbey d'Orville, Flaubert, Baudelaire n'ont pas la même idée de l'homme et sont totalement hostiles au progrès. Vous disiez le premier titre était le progrès. Tout cela suffit pour faire fuir Baudelaire, qui est l'ennemi même du progrès. Son attitude vis-à-vis de Victor Hugo a été assez ambivalente. D'un côté, il admire le poète, d'autre part, il est irrité, agacé par l'homme, mais il y a aussi le fait que Victor Hugo a une œuvre écrasante. Si on regarde les trois volumes de la Pléiade, qui réunissent ces poésies. À côté, Les fleurs du mal, c'est un mince recueil et Baudelaire a du mal à exister. Mais il a fait quantité de textes sur Victor Hugo, dont quelques-uns extrêmement élogieux. Ils n'appartiennent pas à la même génération, mais c'est son grand aîné. Et la grande période de la littérature romantique est celle du Cénacle, des années 20. Baudelaire regrette toujours de ne pas avoir connu cette époque où les poètes, les uns, étaient un public pour les autres. Il y avait une espèce de vie littéraire. La poésie avait une place dans la société, ce qui était moins le cas sous Louis-Philippe et encore moins sous Napoléon III. Quant aux Misérables, c'est un livre de piété. Dit-il, il fait un article positif, mais il écrit à sa mère, j'ai fait un article positif, j'ai prouvé que je maîtrisais l'art de mentir. Oui. Parce que il estime que c'est un livre absolument exécrable.
Dégoûtant, oui.
Ce qui ne l'a pas empêché, auparavant, de demander à Victor Hugo une préface à son étude sur Théophile Gautier. Théophile Gautier qui est le chantre de l'art pour l'art. Et Victor Hugo, dans la préface, dit « Vous avez fait un texte admirable sur Théophile Gautier. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais le texte est très beau quand même. Moi, je dis toujours l'art pour le progrès, alors que vous, vous dites l'art pour l'art. »
À la fin de l'article de Baudelaire sur Victor Hugo, je la lis, « Hélas, du péché originel, même après tant de progrès depuis si longtemps promis, il restera toujours bien assez de traces pour en constater l'immémoriale réalité. » Si je cite cette phrase, c'est que le péché originel a connu, à la fin du XXe siècle, une réhabilitation inattendue. Je voudrais citer d'abord le penseur dissident polonais et philosophe Kolakowski, qui y voit, par-delà l'histoire un peu à dormir debout que ça raconte, la conscience de la faiblesse et de la caducité humaine. Et cette idée qu'effectivement, l'homme ne pourra pas se guérir du mal, et il y a toujours un risque d'externalisation du mal quand on refuse de penser le péché originel. Et je voudrais citer un autre auteur, très loin de toute théologie, mais c'est Philippe Roth, La Tâche. Alors lui-même n'aimait pas l'évocation du péché originel, mais que dit-il ? La souillure est en chacun à demeure inhérente, constitutive, face à tous les fantasmes de pureté de l'idéologie au XXe siècle. Donc c'est aussi autour de cette question-là, de l'optimisme de Victor Hugo, que vous avez su tempérer, Philippe Reynaud, mais qu'il y a eu cette crispation. Et simplement aussi, autre chose, je voudrais en venir là, c'est-à-dire que Victor Hugo était un penseur progressiste, pas forcément béat, mais progressiste, romantique dès le début et progressiste. Et c'est très étrange parce que le romantisme allemand, le romantisme anglais, liés en réaction à la fois à la révolution industrielle et à la terreur, ne sont pas des progressismes. Alors comment s'allie chez Victor Hugo romantisme et progressisme ? Est-ce une spécificité hugolienne ou plus largement une spécificité française dans le cadre de l'histoire générale du romantisme au XIXe siècle. Philippe Reynaud.
D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre présentation du romantisme européen. Le romantisme allemand est majoritairement conservateur, etc. Bon, on peut dire ça parce qu'on est notamment fasciné par la centralité de Novalis. Mais le romantisme anglais, beaucoup moins.
Il est quand même... Le romantisme politique anglais, il vient de Burke, un penseur que vous connaissez mieux que personne.
Non, pas du tout. Il vient pas de Burke. Il est développé... Shelley a épousé la fille de Mary Wollstonecraft, qui est la contradictrice de Burke. Le seul qui est vraiment conservateur chez les romantiques anglais, c'est Coleridge. Vous pouvez sûrement pas dire que Byron est conservateur, par exemple.
Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que le romantisme, c'est la représentation d'un enracinement de l'homme. C'est quand même ça, le romantisme. Face, justement, à la terreur politique et à la révolution industrielle, l'humanisme romantique, c'est le refus d'abandonner la réalité à la méthode, et il dessine l'image d'un irréductible enracinement de l'homme. C'est quand même ça, philosophiquement, le romantisme. Alors que chez Victor Hugo, il semblerait que c'est tout autre chose.
Je crois que le point central, c'est de voir comment ça s'enchaîne dans l'histoire littéraire. C'est-à-dire que le romantisme va tomber à gauche, tout simplement parce qu'il se construit contre la tradition classique et que c'est un mouvement de contestation des règles héritées et des choses comme ça. C'est un mouvement qui affirme les droits de la transgression de l'ordre classique, qui est considéré comme excessivement contraignant, etc. C'est pour ça qu'en France, je crois que l'idée de Hugo est tout à fait profonde. Cette idée que le romantisme, c'est le libéralisme en littérature, là, ça ne veut pas dire l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, le marché, etc. Ça veut dire le libéralisme politique. Et c'est quelque chose qui se construit chez Hugo, effectivement, contre la solidarité qui existait auparavant entre une partie de la gauche et des néoclassiques, héritiers des Lumières. Mais je pense que c'est l'insurrection contre l'ordre classique qui définit le romantisme en ce sens-là. Et l'idée de Hugo, elle est tellement prégnante qu'elle va structurer une grande partie du débat français, puisque si vous prenez le grand courant de droite, certes pas de droite au sens d'aujourd'hui, mais de droite, qu'a été le courant de l'Action française, toute la doctrine de l'Action française, c'est le retournement de la thèse de Hugo, c'est que le romantisme, c'est le libéralisme en littérature, c'est la révolution, et il faut revenir à l'ordre classique de même manière qu'il faut revenir à la monarchie. C'est une histoire française plus qu'hugolienne et qui a des échos en Europe, quand même.
Robert Cope.
Oui, alors je crois que vous avez raison de distinguer le romantisme anglais et allemand du romantisme français, pour la simple raison que le romantisme anglais et le romantisme allemand sont nés avant la Révolution française. Ils ne sont donc pas une réponse à la Révolution française. Alors que le romantisme français étant postérieur à la Révolution française, il y a évidemment l'ombre de la Révolution qui plane. Et Philippe a mis l'accent sur le fait qu'en France, il y a deux romantismes, il y a un romantisme de droite et un romantisme de gauche. Enfin, pour aller un peu vite et schématiquement, le romantisme de droite qui va de Chateaubriand à Baudelaire à Barbey d'Aurevilly, Balzac en fait peut-être partie, et un romantisme de gauche du deuxième ou du troisième Victor Hugo, puisqu'il a commencé à droite comme poète monarchiste et dans une posture catholique, ce qui ne signifiait pas qu'il avait de la religion du tout. C'était un habit qu'il a endossé parce qu'il pensait que pour faire carrière en littérature, il valait mieux être de ce côté-là. C'était la mode. La mode était à la poésie monarchiste et à la poésie catholique. Et quand vous êtes un jeune auteur et que vous voulez vous faire une place au soleil, vous allez du côté où vous pensez avoir quelques succès. Et si ensuite le public ne suit plus ou change, eh bien vous pourriez aussi changer.
Il ne change pas par opportunisme, Victor Hugo.
Je pense que
son progressisme, son républicanisme sont quand même fondamentaux dans sa pensée.
Je n'emploierai pas le mot opportunisme, mais j'emploierai le terme souci de la carrière. Et Victor Hugo a toujours eu un souci très clair de la carrière. Il a toujours cherché le succès. Ce n'est pas un crime qu'on reprochait à un auteur que de chercher le succès. Il a toujours essayé d'aller vers le public. Il n'a jamais méprisé le public. Comme Baudelaire, par exemple, il n'a jamais écrit contre le public. Il a écrit pour le public.
Il a écrit aussi pour le progrès. Alors là, je persiste à penser quand même qu'il y a dans le romantisme l'idée d'un enracinement de l'homme, une critique de la table rase, une critique du cartésianisme. L'homme se retrouve comme habitant et comme héritier. Mais Victor Hugo, c'est un progressisme effervescent. Tous les faits suprêmes de notre temps sont pacificateurs. La presse, la vapeur, le télégraphe électrique, l'unité métrique, le libre-échange ne sont pas autre chose que des agitateurs de l'ingrédient. Tous les railways qui paraissent aller dans tant de directions différentes, Pétersbourg, Madrid, Naples, Berlin, Vienne, Londres, sont au même lieu la paix. Le jour où le premier air navire s'envolera, la dernière tyrannie rentrera sous terre. Cette technophilie, ça fait penser quand même, à contrario, au 11 septembre, ces avions qui se sont jetés, si je puis dire, sur les tours jumelles, c'était là, à travers la technique, l'apothéose de la séparation, et non la paix et la concorde. Mais il y avait, chez Victor Hugo, une technophilie profonde. Philippe Reynaud.
Bon, certes, moi je crois que c'est ce qui fait que, malgré toute l'admiration que j'ai pour Victor Hugo, je ne crois pas que ça puisse être un auteur absolument pour notre temps. C'est un moment historique, si vous voulez,
voilà,
qui est derrière nous.
C'était pas un prophète.
Les prophètes peuvent se tromper. Les prophètes, c'est les gens qui parlent devant le peuple pour dire des grandes choses. Et par ailleurs, Raymond Aron a écrit un beau livre sur les désillusions du progrès, mais un de ses derniers articles disait qu'il fallait quand même défendre le progrès. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, me semble-t-il, c'est défendre cette métaphysique optimiste et progressiste.
Voilà.
C'est l'idée, effectivement, qui est d'ailleurs tardive, même au XVIIIe siècle, mais qui incarne, enfin, dans laquelle, que signifie l'idée de progrès au XIXe siècle, c'est l'idée qu'il y a une solidarité naturelle entre tous les éléments de la modernité. C'est-à-dire que le progrès technologique, le progrès moral et le progrès des sciences, tout ça va de pair. Ça, effectivement, c'est quelque chose que, pour mille et une raisons, nous ne pouvons plus penser, tout simplement.
On peut tempérer ce jugement critique grâce à deux vers. Deux vers des contemplations, absolument magnifiques. Sans cesse, le progrès, roue à double engrenage, fait marcher quelque chose en écrasant quelqu'un. Ça, c'est Victor Hugo aussi. Il a su penser cela, il a su dire cela. Mais, d'un autre côté, ces prophéties n'ont pas été accomplies, notamment celle qui dit que la tribune politique se transformera en tribune scientifique. Fin des surprises, fin des calamités et des catastrophes, on aura doublé le cap des tempêtes, il n'y aura pour ainsi dire plus d'événements, plus de disputes, plus de parasitisme, ce sera le règne paisible de l'incontestable, les lois seront des axiomes, on ne met pas aux voix, 2 et 2 font 4. Cette vision mathématique ne me semble pas tout à fait conforme au génie du romantisme. En tout cas, c'était une partie du génie de Victor Hugo, un génie qui est peut-être daté aujourd'hui, mais là je voudrais en venir à un roman passionnant que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Là, vous allez m'aider. Et vous en parlez d'ailleurs, Philippe Reynaud, dans votre livre. C'est 93. Victor Hugo face à la Révolution. Que signifie cette date pour Victor Hugo, Robert Cope?
Elle fait partie de la Révolution. Victor Hugo est un peu du côté de Clémenceau. La Révolution est un bloc. Il ne veut pas retenir 89 contre 93. Il prend tout. Comme la Commune fait partie de la guerre franco-allemande et de la guerre civile qui l'a suivie, il est plutôt tendanciellement pour les communards, mais il ne veut pas que la Commune détruise Paris, il est contre les violences, il est par ailleurs pour l'amnistie des communards. Et pour 93, c'est un peu la même chose. Victor Hugo est un des grands adversaires de la peine de mort. Or, 93 est quand même le moment où la guillotine fonctionne à plein régime. Et comment est-ce que un adversaire déclaré de la peine de mort peut-il être en même temps un admirateur de ce régime de la guillotine? Ce n'est pas parce qu'il fait l'apologie de la terreur. Il dit simplement « ça fait partie de la Révolution ». C'est un point noir dans le ciel bleu, en quelque sorte. L'ensemble est positif, mais il y a des points noirs.
Vous êtes d'accord avec cela? Parce qu'il y a un débat dans 93 entre Simourdin, prêtre défroqué, et Gauvin, révolutionnaire. Et aussi avec Lantenac, un Vendéen, dont Gauvin va sauver la vie parce que lui-même a sauvé la vie de 3 enfants, et Gauvin est condamné à mort par Simourdin, qui se suicide au moment de l'exécution de Gauvin, et Gauvin réclame sa propre condamnation. Il dit « j'ai relâché Nantenac », mais finalement, c'est une sorte de faiblesse, je demande d'être condamné à mort. Alors, je lis tout ça, et je me demande, que faut-il en penser, Philippe Reynaud ?
La première chose, je crois, c'est que Victor Hugo ne se contente pas de dire qu'il faut tout sauver dans la Révolution, que tout est à défendre, etc. Il pense que le sommet de la Révolution n'est pas 89, mais 93.
Ah oui.
C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que, prends par les nombreux passages où il dit cela, le 14 juillet avait délivré, le 10 août avait foudroyé, le 21 septembre fonda la Convention et le premier avatar du peuple. C'est par la Convention que s'ouvrit la grande page nouvelle et que l'avenir d'aujourd'hui commença. Nous approchons un peu plus loin, nous approchons de la grande cible, voici la Convention. Le regard devient fixe en présence de ce sommet. Jamais rien de plus haut n'est apparu sur l'horizon des hommes. Il y a l'Himalaya et il y a la Convention. La Convention est peut-être le point culminant de l'histoire. Donc le point culminant de l'histoire, ce n'est pas la Révolution de 89, c'est la Convention, c'est-à-dire la période qui s'ouvre en septembre 92 et qui va culminer dans la Terreur. De la même manière, vous parlez de la peine de mort dans tous les textes de Victor Hugo. Vous avez d'un côté la condamnation de la peine de mort et d'autre part la sacralisation du régicide, qui est quand même le moment qui est de la rupture irrésistible, alors qu'il donne, dans l'espèce de religion, de gnose de Victor Hugo, qui fait Louis XVI une figure complexe, il est le sacrifié, etc. Mais il y a un moment sacrificiel, et le moment important, c'est la Convention. Alors d'autre part, est-ce qu'il est, dans la discussion sur la Terreur, de quel côté est-il ? Certainement pas du côté de Nantenac, même s'il reconnaît une certaine noblesse pour des raisons personnelles sur lesquelles on reviendra, il a un certain rapport avec la Vendée. Mais il y a 2 dialogues entre Gauvin, le Girondin, disons pour simplifier, et Simourdin, son ancien précepteur, qui est jacobin, robespierriste, etc. Le titre du chapitre, c'est « Les deux pôles du vrai ». Je crois que c'est ça. C'est l'idée que dans la Révolution, il y a la symétrie ou l'antithèse est reprise plusieurs fois. Mais en gros, la position, c'est que la Terreur a sauvé la Révolution, mais la Révolution a été compromise par la Terreur. Alors, ça fait qu'il est rétrospectivement clémenciste dans l'interprétation du passé. Effectivement, la Révolution est un bloc. Mais avec comme perspective le fait que la Terreur est derrière nous. Maintenant, il va falloir fonder la République. Il arrive à Clémenceau de dire la même chose, d'ailleurs. Mais disons qu'il est dans cette sensibilité républicaine, dans laquelle 89 n'est pas le moment le plus important. C'est le moment inaugural, mais là, le sommet, c'est la Convention. Et d'autre part, ça va de pair avec une vision absolument condamnatrice de l'ensemble du passé pré-révolutionnaire.
Voilà, c'est ça.
Et notamment de tout ce qui vient de la monarchie. Il y a un anti-royalisme du goût républicain qui a quelque chose d'étonnant, enfin de surprenant.
Oui, surprenant. Alors, il est vrai, ce chapitre des deux pôles du vrai est central. C'est là que Simourdin dit à Gauvin ce qui caractérise cette année énorme, c'est d'être sans pitié. Pourquoi ? Parce qu'elle est la grande année révolutionnaire, cette année où nous sommes, incarne la révolution a un ennemi, le vieux monde, et elle est sans pitié pour lui, de même que le chirurgien a un ennemi, la gangrène est sans pitié pour lui. Et il dit, un jour la révolution sera la justification de la terreur, réponse de Gauvin, craignez que la terreur ne soit la calomnie de la révolution. Et Gauvin ajoute, amnistie est pour moi le plus beau mot de la langue humaine, amnistie, mot utilisé abondamment par Victor Hugo après la Commune.
Oui, oui, oui.
Il réclamait l'amnistie, bien qu'il n'ait pas été tout à fait favorable
oui,
à la Commune.
Il avait parfaitement raison. Monsieur.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous citez une autre phrase de Victor Hugo, où il dit, ce que nous appelons la guillotine n'est qu'un bistouri. C'est possible, mais il faut désormais que les maux de la société soient traités non par le bistouri, mais par la lente et graduelle purification du sang. Bon, mais cela étant, ce bistouri, il l'a admis, et cette formule m'a d'autant plus frappé, celle du bistouri, qu'on la retrouve dans un livre extraordinaire, le Testament, le livre testamentaire de Vassili Grossman. Tout passe. Ce qui caractérise ces hommes, Chevik, C'est leur foi fanatique en la toute-puissance du bistouri. Le bistouri est le grand théoricien, le leader philosophique du XXe siècle. Oui, bien sûr. C'était aussi ça, quand même, la terreur. Mais là, vous avez raison. Victor Hugo dit que voilà, ben, c'est quand même la grande année 93, la grande année révolutionnaire, parce qu'elle a mis à bas un passé tout entier obscur.
Oui, ce qui me frappe dans ces textes, c'est à la fois le vocabulaire médical et le vocabulaire religieux, les deux. Le vocabulaire médical, c'est-à-dire la société est un corps. Ce corps a été malade du temps de la royauté. Il va vers une santé qui est celle de la démocratie. C'est la marche inéluctable de l'humanité, de l'aristocratie vers la démocratie, de la monarchie vers la république. Et d'autre part, le côté religieux, la marche du peuple a quelque chose de sacré. Et le peuple ne peut pas se tromper.
Oui, c'est ça.
Le peuple ne peut pas se tromper. Et quand on dit c'est le sommet de la révolution, c'est plutôt l'acmé de la révolution, c'est le point de non-retour.
Voilà.
Mais il ne faudrait pas qu'on joue à répéter ou à vouloir répéter cet exercice. Il est derrière nous, on l'a traversé, il a été douloureux.
Mais il fallait le faire, quoi, c'est ça.
C'était une opération, il fallait faire pour préserver l'unité. Parce que le bistouri, il y aurait tout un travail à faire, revient aussi dans un texte de Balzac, Les Trois Rêves, où Balzac, par exemple, justifie la Saint-Barthélemy et justifie indirectement la terreur, parce qu'il y a un corps malade, il faut extirper cette partie malade pour recréer l'unité.
La chirurgie, oui. Mais Victor Hugo, c'est des antithèses étourdissantes et parfois un peu fatigantes. Donc il y a d'un côté la tourgue. La tourgue, c'est la dernière citadelle vendéenne. La tourgue, c'était la monarchie. La guillotine, c'était la révolution. Confrontation tragique. D'un côté la dette, de l'autre l'échéance. D'un côté l'inextricable complication gothique. Le serf, le seigneur, l'esclave, le maître, la roture, la noblesse, le code multiple, ramifié de coutumes, le juge et le prêtre coalisés, les ligatures innombrables, les préjugés, les fanatismes, le sceptre, le trône, le bon plaisir, le droit du vin, de l'autre, cette chose simple, un couperet. Oui, en effet, il ne ménage pas ses mots, Victor Hugo, il est toujours dans l'antithèse. C'est la raison pour laquelle, en effet, il prend face à un passé tout entier négatif, le parti de la guillotine, le parti du bistouri. Mais Victor Hugo, vous l'avez dit au début, Philippe Reynaud, n'avait pas voulu d'une récupération catholique lors de ses funérailles. Et en même temps, il y avait une religion de Victor Hugo. Alors, quelle était-elle? Quelle est la religion de Victor Hugo? Et quel est son rapport au catholicisme? Philippe Reynaud.
La religion de Victor Hugo, c'est la religion humanitaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose, bon, les chrétiens orthodoxes, les catholiques diront que c'est une hérésie chrétienne, ça peut très bien se défendre, c'est-à-dire dans laquelle on garde un certain nombre de choses de ce qu'on considère comme le message évangélique, mais on casse tout le système conceptuel du christianisme à travers le point de départ, c'est d'ailleurs la négation du péché originel. Que si vous n'avez pas de péché originel, vous n'avez pas de nécessité de l'incarnation, donc vous n'avez pas de Christ, vous n'avez pas de Trinité, vous n'avez plus rien. Bon, mais tout ça parce qu'au point de départ, notamment, il faut éliminer l'enfer, qui a toujours été une chose désagréable dans l'enseignement chrétien. Et c'est la religion humanitaire au sens le plus courant. Paul Bénichou, dans un de ses livres, parle d'ailleurs de ce qu'il appelle l'humanitarisme, qui n'est pas simplement le fait de Hugo, mais aussi de Michelet, de Quinet, c'est une des sensibilités centrales au XIXe siècle, et il dit « c'est quelque chose dont on se moque d'autant plus volontiers que l'essentiel en subsiste dans la mentalité commune ». Je crois que ça c'est vrai. Maintenant on ne croit plus, c'est conceptuellement moins rigoureux parce que le christianisme est moins fort, parce que l'athéisme militant est moins fort, parce que la croyance au progrès tombe en morceaux, mais c'est fondamentalement l'humanitarisme avec ses qualités et ses défauts.
Oui, oui, c'est tout à fait la religion humanitaire, une sorte d'évangélisme sans église surtout, mais cette religion...
Et son péché originel...
Et surtout son péché originel, parce qu'il est du côté de Rousseau et non pas du côté de Pascal, bien entendu. Mais cette religion humanitaire fait aujourd'hui l'actualité et le succès de Victor Hugo. Parce que vous aviez l'air de dire tout à l'heure que Victor Hugo, c'est un moment qui appartient à l'histoire littéraire. Je me permettrai de vous contredire. Il est tout à fait actuel si on regarde le succès, par exemple, de la comédie musicale Les Misérables. C'est un succès absolument planétaire. Oui. On en a tiré un film. On le redonne actuellement au Châtelet. Devant vous, Alain, vous avez toute une série de livres de poche. Les éditeurs ne sont pas nécessairement des entrepreneurs de bienfaisance. Ils veulent aussi vendre leurs livres. Et 93 en livres de poche, ce n'est pas parce que parfois c'est au programme que ça suffit pour le rééditer en livres de poche. Donc, il y a une actualité de Victor Hugo. Il répond à un besoin. Et les gens s'y reconnaissent.
Mais il y a une actualité même religieuse de Victor Hugo. La religion humanitaire siège aujourd'hui au Vatican. Le pape est d'une certaine manière hugolien, avec son extraordinaire encyclique Fratelli Tutti. Tous les hommes de volonté sont appelés à une fraternité mondiale, sans distinction de race et de religion, sans distinction de civilisation, de nation. On sait ce que le pape pense de l'Europe, on sait ce qu'il pense de la France. Là, Victor Hugo n'aimerait pas, parce que la France...
Il ressemble à l'évêque dans Les Misérables.
C'est le premier pas vers l'humanité. Il l'empêche. Le pape a converti le catholicisme à la religion humanitaire, c'est-à-dire François, à la différence de ses prédécesseurs, aussi bien Jean-Paul II que Ratzinger, Benoît XVI. Donc, on peut parler à cet égard, peut-être vais-je trop loin, mais on peut parler d'un triomphe de la pensée hugolienne. Philippe Reynaud, vous avez l'air sceptique, pensif.
Oui, c'est-à-dire que l'Église catholique, c'est une vieille affaire et ça peut encore nous réserver des surprises. C'est-à-dire que je ne me hâterai pas autant que vous d'enterrer l'orthodoxie, parce que le pape n'a pas détruit tous les fondements de son pouvoir et ses successeurs peuvent rétablir les choses.
Oui. Enfin,
c'est pas si clair, si vous voulez. D'autre part, je trouve que c'est assimiler Victor Hugo à l'enseignement du pape François, je trouve que c'est un peu désobligeant pour Victor Hugo, quand même. Par ailleurs.
Oui, mais enfin, il y a une évolution, en tout cas, humanitaire Vatican. Le Vatican d'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais le Vatican d'aujourd'hui, c'est quand même surtout une ONG.
Oui,
donc c'est cela qui me frappe.
Si vous voulez, en l'occurrence, le Vatican a suivi plus tardivement l'évolution de toutes les églises chrétiennes qui sont, disons, les courants majoritaires. C'est le courant majoritaire dans toutes les églises chrétiennes. Les églises protestantes, ça fait quand même très longtemps qu'elles sont engagées dans une évolution de ce genre. Alors le Vatican, normalement, la structure hiérarchique est faite pour empêcher ça. Mais c'est le problème, c'est que, comme disait le général de Gaulle, une fois que le diable est dans le confessionnal, là, plus rien ne marche.
En effet. Et là, je voudrais qu'on dise quelques mots quand même aussi sur la poésie de Victor Hugo, parce qu'il y a une grandeur dans cette pensée humanitaire, c'est qu'elle va au-delà de l'humain, c'est-à-dire... Il y a une hospitalité poétique de Victor Hugo absolument extraordinaire, où il prend en charge les animaux, même les animaux laids, et la laideur de toute façon. Une poésie qui ne s'en tient pas au canon de la beauté. Je voudrais citer cet extrait, je crois que j'ai déjà fait une émission précédente, mais je ne m'en lasse pas. « J'aime l'araignée, j'aime l'ortie, parce qu'on les hait, et que rien n'exauce, et que tout châtie leur morne souhait. » Parce qu'elles sont maudites, chétives, noirs êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens. C'est inouï de savoir écrire des choses pareilles. Voilà, l'araignée et l'ortie. C'est aussi ça, l'humanitarisme de Victor Hugo.
Oui, il prend l'ensemble de la...
C'est inclusif, oui, c'est inclusif.
C'est trop... C'est dommage.
Il prend l'ensemble de la création.
Dans il prend l'ensemble de la création.
Oui,
l'ensemble de la création dans tous ses aspects.
Oui, oui, c'est ça. Il prend l'ensemble de la création. Il y a aussi ce poème extraordinaire, Le Crapaud.
Oui, enfin, bon, c'est mais il se met à la place de Dieu, n'est-ce pas?
Il ne faut quand même pas oublier
que pour Victor Hugo, le poète est un prêtre, un mage, un prophète, et au fond, il refait la création de Dieu à travers ses textes. Oui. Il y a une sorte d'assimilation entre le poète et le créateur, entre le créateur avec ses majuscules et le créateur avec ses minuscules.
C'est ce qui fait que s'il prend en charge l'ensemble de la création, c'est pas parce que, fondamentalement, il est, si on prend les distinctions habituelles, il est théiste. Il pense qu'il y a un Dieu transcendant qui intervient dans les affaires humaines, il y a une providence active, etc. Mais il y a quand même chez Hugo une pente panthéiste, je dirais. C'est-à-dire que la rupture entre le créateur et la création n'est pas si nette. Et c'est pour ça que la question du mal prend cette manière d'inclure dans la création l'ensemble des choses. Tout ça ne manque pas de cohérence, d'ailleurs. C'est-à-dire que, parce que s'il inclut l'araignée et l'ortie, c'est parce qu'il est contre le péché originel. Voilà. Alors, il va falloir que vous choisissiez.
Non, mais moi, je ne choisis pas. Mais attendez, il est contre le péché originel, mais en même temps, il ne succombe pas au mythe de l'innocence enfantine, notamment dans le crapaud. Les enfants, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme erre asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. Et c'est des enfants qui jouent avec un crapaud et qui le torturent. Et le crapaud est sauvé par un âne parce qu'il y a une solidarité. L'âne songeait passif sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Mais c'est extraordinaire. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Ça, c'est quand même... C'est aussi Victor Hugo.
Oui, mais Victor Hugo est aussi l'auteur de L'art d'être grand-père. Dans laquelle la glorification de l'enfance est justement la contrepartie naturelle de la fin du péché originel. Enfin, ça se tient.
Oui, mais pour Victor Hugo, le mal est une étape sur le chemin vers le bien. Oui. Il est inclusif aussi dans ce sens-là. Le mal n'existe pas.
C'est ça, le progrès, d'ailleurs.
Le mal n'existe pas en tant que tel. Alors que, pour Baudelaire, le mal existe. Il dit, l'homme a conçu dans le ventre de sa mère le goût du crime. Il est essentiellement mauvais. Et donc marqué par le péché originel. Et Rousseau, ou Victor Hugo plutôt, est du côté de Rousseau et de la religion naturelle, et Victor Hugo ne cesse de répéter que finalement, c'est le bien qui va l'emporter sur le mal.
Oui, c'est le bien qui va l'emporter sur le mal, mais il y a cette phrase, j'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel, qui est d'une profondeur inouïe. Puis il y a aussi une autre phrase.
Oui, mais il n'est pas éternellement enfant, il a évolué.
Et bien sûr. Bien sûr, mais il y a aussi l'art d'être grand-père. Et puis il y a cette phrase que je voudrais citer pour finir, c'est dans « L'homme qui rit », une sorte de monologue du héros. « On a l'obsession, l'illusion peut-être, de plusieurs routes s'offrant en même temps, et à l'entrée de chacune d'elles, on croit voir le doigt indicateur de la conscience. Où aller, sortir, rester, avancer, reculer, que faire? Que le devoir est des carrefours, c'est étrange. La responsabilité peut être un labyrinthe. » La responsabilité peut être un labyrinthe. J'aime me réciter cette phrase quand, effectivement, je suis parfois un peu trop étourdi par les antithèses de Victor Hugo. Il y a aussi cette idée du labyrinthe, idée sur laquelle je suis heureux de terminer cette émission. Et je voudrais, pour finir, lire un dernier extrait du Crapaud, ce poème admirable. Soudain, avançant dans l'ornière, où le monstre attendait sa torture dernière, le monstre, c'est le crapaud, torturé par les enfants, l'âne vit le crapaud, et triste, hélas penché sur un plus triste, lourd, rompu, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse. Ce forçat, ce damné, ce patient fit grâce. Il rassembla sa force éteinte, et roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « avance », maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, hagard, il détourna la route inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin, alors lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon ». Donc cet enfant a été racheté, racheté en effet par la voix divine. Voilà, il n'y a pas de péché originel pour Victor Hugo. Philippe Reynaud, vous avez raison, et je rappelle le titre de votre livre, « Victor Hugo, la révolution romantique de la liberté », publié dans la collection « L'esprit de la cité », Gallimard, et une subdivision de cette collection, « Des hommes qui ont fait la France », et c'est particulièrement le cas de Victor Hugo. Merci à tous deux, Robert Kopp et Philippe Reynaud. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Adrien Gaza. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Que devient l'Europe centrale ?». Mes invités seront Jacques Rupnik et Marc Semo, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet.